Bête, juste un mot de tête.
La web radio, pas prise de tête.
Bonjour et bienvenue à tous sur 100 mots de tête, la web radio du GEM. Aujourd'hui, nous recevons Olivier Truche, bénévole et administrateur de l'association Le Cairn, pour une interview autour du Cairn. Alors le Cairn, c'est une monnaie locale de la région grenobloise, utilisable dans plusieurs centaines de magasins. C'est aussi une association qui permet de gérer cette monnaie. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, donc Olivier. Donc, il y a quelques années, j'étais engagé, on va dire, dans la vie de la cité, dans les conseils de quartier. Je m'intéressais déjà un peu à ce qui se passait sur le territoire. Et puis, souvent, la question des moyens financiers revenait sur le devant de la scène quand on a un peu cette image d'un gâteau. Chaque projet, chacun prend des parts, les grosses parts, les petites parts, les miettes. Et petit à petit, je posais la question de « mais c'est qui le pâtissier ?» Pas simplement comment on répartit le gâteau, mais comment on le fabrique, en fait, ce gâteau. Comment on crée l'argent, d'où ça vient. Et tout ça, ça m'a amené petit à petit à découvrir des initiatives de monnaie locale. Et je trouvais que c'était intéressant parce que on se dit qu'il faudrait changer les choses au niveau de l'économie, mais on n'a pas beaucoup de prise. Enfin, on se dit qu'il faudrait peut-être changer des choses et c'est au niveau international ou national. On se sent un peu impuissant par rapport à ça. Et du coup, j'ai trouvé qu'avec ces initiatives de monnaie locale, c'était vraiment l'occasion de pouvoir faire quelque chose à ma petite échelle sur le territoire. Donc avec plusieurs personnes, on a essayé de réunir des gens, d'informer, de sensibiliser sur ce que pouvait être la monnaie locale. Et puis petit à petit, il y a eu une dynamique et on a convaincu des partenaires ou des gens de nous rejoindre. Et on a pu lancer en septembre 2017, de façon opérationnelle, le Cairn, donc la monnaie locale de la région grenobloise. Donc le Cairn, le nom, ça vient de... Vous voyez, c'est les petits tas de pierres qu'on trouve en montagne qui balisent les sentiers. Et c'est un peu l'image qu'on a de notre territoire, un territoire avec des montagnes. C'est un peu l'image des colibris où, pour aussi construire le cairn, le petit tas de pierres, c'est chacun amène sa pierre, donc un peu comme les colibris. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire là où ils amènent le petit colibri amène une goutte pour éteindre un océan en disant moi je fais ma part et chacun essaye de faire sa part. Donc c'est un peu cette idée-là. Puis c'est l'idée qu'on est un peu dans un brouillard économique et que. Comme les cairns servent dans les montagnes, quand il y a le brouillard qui tombe sur la montagne, à se repérer, à retrouver un peu le sentier, c'est essayer de se donner un petit peu des points de repère pour essayer de se retrouver un peu au milieu de tout ça, pour aller vers une économie qui est un peu plus responsable.
Quel type de commerce adhère aux cairns et qu'est-ce que je peux acheter avec des cairns ?
Alors, sur les types de commerce... Ou type d'entreprise qui nous rejoignent, en fait, il y a vraiment une grande variété. L'idée, c'est que ça soit des commerces dont le siège social soit sur le territoire. Ou s'ils ne sont pas sur le territoire, qu'ils aient une marge de manœuvre vraiment importante dans leur politique d'achat. Finalement, un artisan, un commerçant, une entreprise qui propose des services pour des entreprises... Tout acteur économique, finalement, peut rentrer dans le projet. Donc après, on a quand même beaucoup de... Donc on demande aussi, au moment de rentrer dans le projet, de signer une charte de valeurs autour des questions d'écologie, de pratiques, de relations avec le territoire, de liens avec les salariés, etc. Donc une charte qui est signée et... Mais l'idée, c'est de prendre les acteurs un peu où ils en sont et de les mettre, faire rencontrer d'autres commerces qui ont des pratiques responsables, où ils cherchent à prendre en compte, en tout cas, leur impact sur le territoire. Et donc, on va trouver des commerces beaucoup dans l'alimentation. peut-être donc des épiceries en vrac, des restaurants, des bars, des magasins de vêtements, des magasins de plantes, des librairies, et puis voilà, ainsi de suite. Vraiment une grande variété. Il y a une pharmacie, il y a des kinés, il y a des entreprises de nettoyage, des comptables. Voilà, il n'y a pas de. On peut trouver, en fait, pour chaque besoin, un acteur, une entreprise qui peut répondre aux besoins.
Comment des associations comme le GEM ou l'ATC peuvent-elles participer à cette monnaie locale ?
Alors, pour participer, donc il y a la participation des individus qui peuvent s'impliquer dans le projet ou s'impliquer en prenant le temps de convertir des euros en kern et en les utilisant pour sa consommation. Et une structure comme votre association, bah, c'est la même chose, en fait. Elle a aussi des besoins. Elle a aussi, parfois, vous organisez des événements, vous allez avoir besoin d'aliments. Il y a peut-être une entreprise qui vient faire du nettoyage. Il y a, voilà, ainsi de suite. Chaque structure, association ou entreprise a des charges. Et donc, une partie de ces charges, en fait, vous peut trouver une solution parmi les acteurs qu'on a qui peut proposer quelque chose d'intéressant. Je parle du ménage, par exemple, parce qu'on travaille avec Solentiel. C'est une association qui sort des filles de la rue, de la prostitution, pour essayer de construire un emploi en CDI fixe. Donc c'est une super initiative, et donc c'est essayer de mettre en relation ces différentes initiatives. Et puis peut-être que votre association, elle a aussi des services ou des choses aussi à promouvoir et qui peuvent être intéressées par d'autres associations. Ça peut être à discuter, mais quelque part, partout où il y a de l'argent, peut y avoir la possibilité d'utiliser le CERN et donc de travailler ce lien. C'est un peu un prétexte, en fait. Il n'y a pas besoin qu'à chaque fois, ça soit qu'en CERN. C'est un prétexte, en fait, pour remailler, retricoter un petit peu sur un territoire les relations entre les gens et les structures, et les structures entre elles.
Comment ça marche, le CERN ? D'où vient cette idée de monnaie locale ? Et comment le CERN a-t-il été mis en place sur la région grenobloise ?
Alors, comment ça marche ? Donc, le principe, c'est on va avoir parmi l'ensemble des commerces ou entreprises qui acceptent le CERN, certains vont jouer le jeu de comptoir de change. Donc, c'est des commerces qui, en plus d'accepter, en fait, vous pouvez y aller pour convertir des euros en équivalent, donc un pour un. Donc, si vous convertissez 20 euros, vous avez 20 CERN. Donc qui vont pouvoir échanger les euros contre des CERN. On a une obligation légale qui est que la monnaie doit circuler entre adhérents. Donc on demande une participation libre, en fait, sur l'adhésion. Donc vous pouvez donner 1 euro, vous pouvez donner 10 euros, vous pouvez donner plus pour nous soutenir. Et donc, une fois qu'on a cette carte qu'on a pris, donc souvent dans ces comptoirs de change ou sur des endroits où nous on fait des animations, on fait des temps où c'est possible aussi de convertir. Et à ce moment-là, bah, après, vous avez cette monnaie dans votre porte-monnaie, et vous pouvez aller dans ces différents commerces et payer en partie ou en totalité les produits avec cette monnaie. Donc, c'est un peu comme, faut penser comme les tickets restaurants. C'est un petit peu pareil. Et du coup, c'est aussi les mêmes règles. C'est-à-dire qu'on peut pas vous rendre de la monnaie d'euros sur des tickets restaurants. Donc là, c'est pareil. On va compléter, en fait, avec des euros. Mais c'est vraiment la même chose pour le commerçant. En fait, c'est sa comptabilité, elle reste en euros. Hein, ça, elle change pas. C'est simplement, j'ai reçu tant en espèces, j'ai reçu tant en chèques. J'ai reçu tant en tickets restaurant, j'ai reçu tant en CERN. Sur d'où vient l'idée, de tout temps, en fait, il y a eu des périodes, notamment des périodes où il y a une raréfaction un peu des monnaies sur le territoire, où vont être se mettre en place des monnaies locales. Après, le mouvement qu'on connaît là aujourd'hui, il y a 82 monnaies locales en France qui sont développées ou quasi lancées sur le territoire. Donc c'est quand même ça représente quelque chose. Et cette dynamique, elle est venue notamment suite à la crise de 2008 et basée sur des initiatives qui se trouvaient en Allemagne de monnaie locale et au Brésil des monnaies qui étaient développées dans des favelas. Et donc à partir de ces initiatives, voilà, il y a eu une première expérience, l'abeille à Villeneuve-sur-Lot, qui s'est lancé, et à partir de là, d'autres ont repris l'initiative. Et ce qui est intéressant, c'est chaque monnaie, en fait, sur chaque territoire va être un peu différente. C'est-à-dire que c'est vraiment une construction collective avec les personnes, et donc il y a des règles du jeu qui sont différentes. Certaines monnaies, par exemple, sont fondantes. Elles perdent de la valeur avec le temps. Et donc l'idée, c'est que voilà, ton billet est valable pendant 3 mois. Il faut acheter un petit timbre pour le rendre valable 3 mois supplémentaires. Et donc ça, c'est pour dynamiser le côté circulation de la monnaie. Et c'est vrai que à chaque fois qu'on échange un billet, eh ben, en fait, il y a un travail qui est en contrepartie. Et donc plus on arrive à faire circuler ce billet-là, plus finalement il y aura eu du travail sur le territoire. Donc nous, on n'a pas fait le choix là de monnaie fondante. Mais on a d'autres spécificités de règles, et donc chaque monnaie, et donc c'est ça qui va être aussi intéressant, c'est que donc il y a eu 2 ans, j'ai dit tout à l'heure, on a lancé ça en 2017, mais en fait voilà, le groupe a commencé en 2015, et il a fallu 2 ans et demi à peu près pour qu'on explore ce que faisaient les autres monnaies locales, pour qu'on choisisse ce qu'on trouvait pertinent, pour définir les règles du jeu, etc., pour voir la confection des billets, pour voilà, tout ce qu'il y avait à prendre en compte avant de se lancer. Et donc ça a mobilisé des centaines, plusieurs centaines de personnes qui se sont relayées et qui sont passées un peu le flambeau pour développer le projet. Quoi. Puis ouais, les pouvoirs publics aussi nous ont aidés, enfin la métropole nous a aidés financièrement pour... l'île de Grenoble aussi, pour arriver à lancer ça. Et la force, je crois, du projet, c'est qu'on n'a pas justement été que sur la ville-centre, en fait. C'est que dans les commerces qui acceptent le cairn, en fait, vous en avez à Tulin, à Saint-Marcelin, dans le Trièves, Matézine, Grésivaudan, etc. Donc presque, en gros, c'est les 2/3 du département. Sur le Nord-Isère, c'est une autre monnaie qui est en train de se lancer qui s'appelle le tissu. Nous, on est voilà, sur cette idée un peu du bassin de vie de la région grenobloise. Donc après, à chaque fois, avec des histoires différentes. Sur Lyon, c'est la gonette, avec cette idée, les gones, c'est les enfants. À Strasbourg, c'est le stuc. Le stuc, je crois que c'est un petit bout de quelque chose. À Chambéry, c'est... L'élève, c'est lié à la place des éléphants.
Un gars qui habite à Grenoble, par exemple, et qui veut aller carrément dans un autre département, comment ça marche? Est-ce que ça sera toujours la même monnaie, ou bien ça va changer de monnaie là-bas?
Alors du coup, elles sont toutes indexées sur l'euro, donc équivalent à 1 pour 1. Donc il n'y a pas non plus de grandes différences. C'est pas des monnaies de spéculation où tu peux jouer avec, etc. Quelque part, tu vas convertir ce que tu as besoin pour ta consommation. L'idée, c'est pas du tout de remplacer les euros. Hein. C'est vraiment très loin de là. Il y a besoin d'une monnaie commune. Après, on réfléchit des fois à des ponts entre les monnaies locales. Ce serait pas compliqué, mais c'est pas non plus le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'essayer de faire circuler et de renforcer sur chaque territoire. Donc, ce qu'on a fait, c'est que l'adhésion que tu prends sur un territoire, elle est valable sur un autre territoire. Donc, si tu prends ton adhésion ici, tu pourras avec ta carte l'utiliser pour échanger des euros contre des élèves, mais pas le cairn. Parce que sinon, en fait, ça demande, en fait, faudrait qu'on ait des gens qui d'un territoire à un autre, aillent chercher les billets, les ramènent à l'endroit d'origine. C'est déjà un peu compliqué, là, où, voilà, il faut qu'on, dans les territoires, on alimente les comptoirs de change, etc. Donc, on... et puis l'autre chose qui est compliquée, c'est que une des forces aussi, un des gros avantages de ce projet, d'une monnaie locale, c'est que, donc, je vous ai dit tout à l'heure, vous échangez contre des euros. Mais ces euros-là, en fait, on va les déposer à la NEF ou au Crédit Coopératif, qui sont des banques qui, du coup, font des prêts à des entreprises qui... voilà, ce sont des entreprises qui vraiment sont sur les questions de transition, sur des questions d'impact de leur comportement. Donc il y a une grosse transparence sur comment sont utilisés les fonds. Et donc du coup, il faudrait que... et ça, nous, ça nous sert d'un fonds de garantie. C'est-à-dire que si le projet, à un moment donné, s'arrête, qu'on soit en capacité de rembourser tout le monde... et de rééchanger à ce moment-là les cairns contre des euros. Donc du coup, donc ça permet une relocalisation comme ça des euros vers ces banques coopératives. Mais voilà, chaque monnaie a son propre compte. Donc il faudrait basculer, si tu échangeais en fait ton billet d'un autre territoire, il faudrait que ce fonds de garantie, il aille vers le bon projet... du bon territoire. Donc c'est un peu compliqué pour pas grand-chose, en fait. Voilà. Encore une fois, c'est vraiment pas du tout l'idée de remplacer que tout le monde... que sur ton territoire, tu fasses que des échanges avec la monnaie locale. C'est vraiment une petite partie. Voilà. Et même souvent, je donne cette image, c'est... je sais pas, c'est comme si tu prenais ton billet d'euro et que tu mettais dessus « j'ai envie que ce billet d'euro, il circule quelques fois sur le territoire et comme si je le coloriais ». Pour pouvoir un petit peu le suivre et forcer à ce qu'il soit échangé sur le territoire. Et le commerçant ou l'entreprise, elle a la possibilité quand même de le reconvertir en euros pour ne pas être coincé, parce que des fois, bah, elle ne sait pas forcément comment, etc. Donc on essaye de l'accompagner là-dessus. Mais bon, parfois, ça voilà, on n'a pas envie de piéger non plus les personnes. L'entreprise peut reconvertir en euros.
Donc concrètement, dans la vie de tous les jours, à quoi ça me sert d'avoir des cairns par rapport à des euros, puisque je peux payer aussi en euros chez le même commerçant? Donc à quoi ça va me servir?
C'est vrai qu'on peut déjà soutenir ces commerces de proximité en allant payer avec des euros. Mais là, ce qui se passe, c'est que quand vous le convertissez en monnaie locale, eh ben, ça pousse aussi le commerçant à lui-même chercher à le réutiliser pour des services ou pour voilà, payer des charges ou pour ses prestataires, pareil en local, qui lui-même va payer peut-être voilà, une partie des primes ou des salaires en local, pour la personne qui elle-même va aller dans un restaurant en local, et ainsi de suite. Assez vite, finalement, la monnaie, elle peut se retrouver sur des grandes plateformes d'échange ou dans des... voilà, si vous allez dans des grandes enseignes, votre argent, il y a de grandes chances que assez rapidement, en 2-3 coups, en fait, il se retrouve très loin du territoire, voire même voilà, dans d'autres circuits. Voilà, après, il y a beaucoup d'argent qui est dans la spéculation. Enfin, il y a des ponts entre les systèmes de l'économie réelle et donc de l'économie spéculative. Là, vous pouvez être sûr que votre monnaie... On ne peut pas la déposer, le cairn, on ne peut pas le déposer sur un compte pour qu'il fasse des petits. Donc ce n'est pas une monnaie de spéculation, c'est vraiment une monnaie qui est dans cette idée de rester dans l'économie réelle, l'échange de biens, de services, de marchandises. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas d'intérêt individuel. Vous ne gagnez pas. Alors bon, il y a des projets où on gagne 5% de plus, etc. On est en train d'y réfléchir parce qu'il y a vraiment tellement de gens qui voilà, disent... On voudrait bien, mais voilà, il faut donner une petite carotte, je dirais. Mais bon, la carotte, je dirais que c'est la carotte, elle est de l'intérêt collectif qui a à saisir. C'est que plus il y a d'échanges sur le territoire, plus il y a de travail, plus il y a de richesse, de progrès sur le territoire. Donc indirectement, ça touche. Je vous ai parlé aussi du côté des euros qui sont... voilà, ils ne vont pas se retrouver dans les banques classiques traditionnelles qui jouent quand même un peu au feu avec cet argent. Là, vous savez que ça va vers des acteurs qui font n'importe quoi avec, où c'est transparent sur l'utilisation de ces fonds. C'est l'occasion que je vous disais après de maillage sur le territoire. Donc c'est vrai que c'est pas un intérêt individuel direct, c'est un intérêt collectif direct et du coup un intérêt individuel indirect. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que l'utilisateur de monnaie, on est un peu critiqué sur le côté militant que peut avoir le projet, mais oui, il y a un côté de comprendre comment fonctionne le système, de sortir ce côté un peu analphabète qu'on a de l'économie, on baigne dedans mais on ne sait pas comment ça fonctionne, de s'en ressaisir et du coup d'avoir un peu la main sur cet outil-là, parce que ce qui est intéressant, c'est que là on est en train de réfléchir, par exemple, est-ce qu'on continue le projet tel qu'il est, ou est-ce qu'on essaye de refondre un peu le projet en changeant un petit peu les règles du jeu, pour justement donner la question d'un petit avantage, ou pour être un peu plus à pousser les entreprises à se lancer des défis pour s'améliorer. Voilà, il y a plein de possibilités comme ça, et ça nous donne ce pouvoir-là d'agir, je dirais, d'action sur le territoire.
Moi, franchement, je vois pas l'intérêt d'avoir fait toutes ces monnaies, puisque c'est d'une région à une autre, il y a d'autres monnaies, ça va être un peu plus à pagaille, quoi. Tandis qu'avec l'euro, on savait tous que ça valait ça, puis c'était terminé, quoi. Il y avait pas besoin d'avoir d'autres monnaies. Enfin, moi, je sais pas, moi. Je vois pas vraiment l'intérêt de faire tous ces trucs qu'on fait, là.
Sur un territoire, une meilleure connaissance. Déjà aussi, ça crée une autre forme de relation aussi entre l'habitant, client, entre guillemets, et l'entreprise. Je vous assure, quand vous allez payer en monnaie locale, il y a, si ce n'est un petit sourire complice, enfin, une petite discussion qui s'engage. Donc, c'est un prétexte, encore une fois, sur ce côté lien, pour favoriser ce lien-là. Et puis, quelque part, c'est... je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, on était en train de... On a essayé de travailler la... Des chèques cadeaux. Et ces chèques cadeaux, ils sont valables dans les 160 grandes enseignes. Donc, Amazon, Fnac, etc., des grosses entreprises. Et qui disait, ouais, mais on a déjà les bons illico cadeaux. Si on utilise les cairns, on se sent en fait limité. On va être obligé d'aller. C'est comme si on perdait notre liberté, qu'on était obligé d'aller payer dans ces quelques commerces. Autres locaux, etc. Et je leur disais, oui, mais vous êtes déjà limité, en fait, quand vous prenez les bons illico cadeaux. Et cela, il vous oblige à aller les dépenser dans ces grandes enseignes. Et est-ce que vous avez envie de plutôt soutenir ces grandes enseignes ou plutôt essayer de soutenir, finalement, cette vie locale? Et donc là, on voit bien que on est en compétition, quelque part, entre des grandes enseignes qui savent déjà s'organiser, qui sont organisées, qui sont puissantes et qui peuvent proposer des grandes réductions, etc., au détriment, en fait, des activités locales, des petits commerces de proximité. Donc là, c'est un exemple que je vous donne d'une question qu'on doit se poser collectivement et d'un intérêt qui peut y avoir. Il y a des entreprises, de grandes entreprises... qui sont productives sur le territoire et donc qui ramènent, je dirais, de la richesse et des revenus sur le territoire. Donc c'est vrai qu'il n'y aurait pas beaucoup de pertinence à l'utilisation, parce qu'elles vendent à l'international ou au national, à utiliser la monnaie locale. Par contre, qu'elles puissent proposer dans une démarche responsabilité sociale des entreprises, qu'elles puissent proposer à leurs salariés d'avoir une partie de primes ou de salaires en monnaie locale, Bah ça serait intéressant parce que ça permettrait de fixer un petit peu de la monnaie sur le territoire. Ce petit effort en fait qu'on se donne là, ben il va créer d'autres coopérations qui n'auraient pas forcément lieu si on le faisait pas.
Vous disiez que c'était un prétexte, cette monnaie, et que du coup, il y avait un côté très militant. Alors, c'est quoi ce côté militant? Et est-ce que vous faites autre chose pour, par exemple, en particulier, sensibiliser les gens à comment fonctionne l'économie, comment fonctionne même la monnaie, l'euro, les dollars, toutes les monnaies qu'on connaît? Est-ce que vous faites des choses dans ce sens-là pour sensibiliser les gens, les informer, des conférences ou je ne sais pas, des choses comme ça?
On a un but fort qui est, qu'on dit souvent, voilà, d'éducation populaire. Et donc de se réapproprier ce qu'est cet outil de la monnaie. Donc ça peut être par l'intervention ou la production de films ou la sensibilisation. Là, en ce moment, on travaille sur... je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des fresques pour le climat, qui est un type d'animation. Et donc, on est en train de l'en faire une fresque pour la monnaie. Donc, c'est revenir souvent sur l'histoire. Souvent, on pense qu'avant la monnaie, c'était le troc. Et en fait, non, ça, le troc, ça a toujours été marginal. Essayez de vous faire un petit déjeuner en troc, vous n'allez jamais y arriver. Donc avant, c'était production collective, redistribution collective. On était dans un village et puis on se répartissait. Chacun voilà, faisait telle ou telle chose. Et puis, finalement, on parle de l'argent dette, de la dette, etc. En fait, dès la création de l'écriture, quasiment, on retrouve des systèmes. Dans Mésopotamie, on a trouvé des tablettes d'argile avec des écritures comptables. Où les commerçants notaient, eux, leur unité de mesure, c'était le boisseau d'orge. Le boisseau d'orge, ça représentait un repas. Et donc, ils comptaient comme ça en repas et ils donnaient des valeurs aux choses. Et quand toi, tu produis de la laine de mouton, ben, tu le produis, tu peux vendre ton truc qu'à une certaine période de l'année. Donc, il y avait un système, on va dire, un peu d'ardoise qui pouvait se mettre en place. Après, on a la création des pièces de monnaie en lydie. Donc ça, c'est moins 600. Et donc là, c'est les premières pièces de monnaie qui étaient une représentation du pouvoir en place. C'est en même temps la création de l'impôt. Donc le système, c'est je donnais de l'argent à l'armée, ces pièces-là. Et ensuite, je récupérais cet argent en impôt. Et donc, ça voulait dire que l'ensemble de la population devait rendre service à l'armée directement ou indirectement pour récupérer auprès de l'armée ces pièces pour ensuite les payer en impôts. Et donc ça a permis d'éviter que petit à petit... parce qu'avant, c'était les armées, elles se payaient sur le dos des territoires dont elles faisaient la conquête. Donc voilà, création des pièces. Ensuite, il y a eu la période avec... les lettres, enfin, lettres de certificat de dépôt, lettres de certificat de crédit. Donc ça, c'est toute la période des Vénitiens, des grandes explorations, où c'est les orfèvres qui avaient l'or et qui deviennent petit à petit des banquiers qui vont faire des prêts. Enfin voilà, donc il y a toute une histoire comme ça qui est intéressante à saisir de la monnaie, de voir les changements aussi... là, les États, par exemple, sont obligés d'emprunter sur les marchés financiers, alors qu'avant, ils avaient le pouvoir de création monétaire directement. Aujourd'hui, c'est plutôt les banques privées qui ont ce pouvoir de création monétaire. Donc ça fait que depuis les années 80, vous avez une dette et des intérêts qui s'accumulent. Et donc aujourd'hui, c'est un des plus gros budgets de l'État, c'est le paiement des intérêts de la dette cumulée. Donc tout ça a un impact, parce que derrière, ça justifie des politiques d'austérité, etc., et qu'on ne met pas forcément en question, parce qu'on ne comprend pas forcément en fait, le mécanisme. Souvent, quand on parle de dette publique, par exemple, on vous dit un nouveau-né, il va naître avec, 26 000 euros de dette. Il naît avec une sorte d'épée de Damoclès, comme s'il était endetté de 26 000 euros. Oui, mais... cette dette, vous l'avez échangée contre quelque chose. C'est des actifs, c'est des routes, c'est des hôpitaux, c'est des écoles, c'est des entreprises, etc. Quand on fait la somme, ça fait, 166 000 euros. Et donc 166 000 euros moins 26 000 euros, en fait, vous êtes tous riches de 140 000 euros. Donc ça, c'est des choses qu'on essaye de partager pour être en capacité, en fait, de ne pas se laisser embarquer dans des représentations un peu simplistes de l'économie ou derrière, en fait, qui vont avoir des répercussions fortes sur les services publics, sur tout ce qui se passe, en fait. On est vraiment très dépendant. Enfin, la monnaie, c'est vraiment l'outil d'organisation de nos sociétés et des rapports de domination des uns avec les autres. Donc, par cet angle-là, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu d'un militantisme, et je dirais d'un militantisme d'essayer de comprendre, en fait, d'une curiosité de ce que peut être la monnaie et de sortir d'y réfléchir, en tout cas, quoi.
Pour finir, quelles sont les perspectives d'avenir du CERN ?
La période, elle est compliquée pour nous. Hein. Vraiment, il faut qu'on arrive à maintenir au moins l'emploi qu'on a qui permet la gestion administrative, un peu la coordination qui est nécessaire, parce que sinon, c'est que sur du bénévolat. Donc on a un risque qui est compliqué. On avait un deuxième salarié qu'on a perdu au moment de la crise la crise Covid, où on a dû faire un licenciement économique. Donc moi, je trouve le projet est fragile en ce moment. Il y a cette question de est-ce qu'on relance le projet tel quel ou est-ce qu'on fait ce que je disais d'une refonte avec des modifications un petit peu pour essayer aussi d'aller un peu plus loin dans ce qu'on peut proposer. Et où il y a des projets qui sont dans les tuyaux, il faudrait qu'on travaille sur le côté responsabilité sociale des entreprises, donc que nous rejoignent aussi des grosses boîtes sur le territoire pour qu'ils comprennent la pertinence du projet et qu'ils proposent à leurs salariés, qui nous aident à injecter, parce que c'est vrai que c'est compliqué de demander aux utilisateurs de passer par le comptoir de change, etc. Il faudrait pouvoir en recevoir directement. Il y a cette question des bons cadeaux, travailler peut-être avec les syndicats pour les bons dont je parlais tout à l'heure, les limites les obligent à aller dans les grandes enseignes. Est-ce que c'est pas pertinent d'aller sur du soutien de commerce de proximité? Je vous ai parlé des guides pratiques techniques, il y a du réseau, il y a de... Enfin, il y a beaucoup de choses à faire et on est des petites équipes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens depuis quelques mois ou voire un ou deux ans me demandent à chaque fois le CERN, est-ce que ça marche ? Et quand ils me posent cette question-là, c'est que je sens bien que quelque part, il y a un regard de se dire non, ça ne marche pas, vous avez lancé ça il y a 2-3 ans, le monde n'a pas changé, quoi. Non, encore une fois, il faut revenir aux échelles dans lesquelles on est. Et puis aux résistances qu'on a de nos propres comportements et notre propre difficulté à nous-mêmes changer. Et que c'est tout ça prend du temps, il faut être patient. Moi, je compare plutôt ça à des arbres qui poussent, quoi. Il faut le temps que ça pousse. Plus on est fragile, moins on a de moyens, c'est compliqué pour nous. Donc on est dans un moment un peu de bascule, quoi, sur le projet. C'est pour ça que j'en appelle à, je dirais aussi, le côté un peu d'une mobilisation et de c'est vrai que c'est pas facile. On a pris pas mal de temps pour montrer l'intérêt que ça pouvait avoir, mais c'est vrai qu'au premier abord on le saisit pas forcément tout de suite, on voit pas tout ce qu'il peut y avoir derrière. Quand je parlais de la relocalisation de l'épargne, mais en fait, c'est dans des banques éthiques, mais c'est énorme, en fait, comme potentiel, ce que ça permet, etc., comme intérêt. Ça, c'est ce côté un peu dédoublement de la masse monétaire. En fait, on le voit pas forcément, il est difficile à partager. Donc, je vous dis, en ce moment, je suis un peu dans le souci, parce que je vois nos capacités... plus la situation sanitaire qui rend les événements un peu compliqués. Après, il y a un potentiel de développement extrêmement important sur ce type de projet, quoi. Encore une fois, partout où il y a de l'argent, il peut y avoir du CERN.
Merci de nous avoir suivis sur 100 mots de tête. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast sur www.lavoixdesgens.fr. Merci à notre invité. Avez-vous quelque chose à ajouter ou un message à faire passer ?
Non, mais sur ce côté, il faut être patient. Les initiatives de ce type-là, souvent, on est un peu à la course à l'innovation et qu'il faut à chaque fois quelque chose de nouveau, etc. Le temps que les choses poussent... Moi, je compare souvent ce projet-là aux AMAP. Les AMAP, elles sont nées... Donc, les associations de maintien de l'agriculture paysanne. Aujourd'hui, c'est très connu. C'est né dans les années 70-80. C'est 20, 30, 40... il a fallu des dizaines d'années, en fait, pour que ça puisse se relayer, se déployer vraiment complètement sur les territoires. Donc je pense qu'on est sur quelque chose d'un petit peu similaire. Ça n'a pas été pris par des politiques vraiment comme un... Voilà, il y a très peu de politiques qui le prennent comme un fer de lance, mais vraiment sur les côtés des monnaies alternatives. Et dans les monnaies alternatives, il y a vraiment toute une variété. Il y a les monnaies temps aussi, basées sur les échanges de services. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la corderie, par exemple, sur Grenoble. Vous pouvez échanger des services. Donc tout ça, ça fait partie des familles. Et moi, j'ai essayé en tout cas, parce que j'étais impliqué aussi sur le lancement de la corderie, de sur le territoire, essayer de mettre dans une boîte à outils d'enrichir une boîte à outils sur le territoire de systèmes d'échange alternatifs, entre guillemets, quoi, pour diversifier, pour faire que, quelque part... le territoire soit plus résistant, soit plus résilient, si aussi les choses deviennent plus compliquées.
Merci et à bientôt sur Sans Prise de Tête.
La web radio Sans Prise de Tête.
Moi, je vois qu'à 14 ans, je me suis branché. Je rendais les messages, les trucs de bruit, là, et tout. C'est impec. Avec la radio, ça nous a fait du bien.
Sans mots de tête, la web radio sans prise de tête.